Bonjour, donc Géraldine Mosselin, directrice du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, l'un des 11 musées du département de l'Isère. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'exposition temporaire Ars Musica qui a été inaugurée le 1er juillet dernier et qui fermera ses portes le 5 novembre prochain. Donc c'est une exposition en fait qui tire son origine dans la redécouverte des figures sculptées du Grand Portail à la faveur d'une restauration spectaculaire s'il en est, donc celle de la façade occidentale dont la première partie, dirais-je, s'est achevée en avril dernier. Et donc à ce moment-là, nous avons pu voir de près et étudier ce cœur angélique, car c'est bien de cela dont il s'agit, donc des anges, des séraphins, qui tous à l'unisson chantent la gloire de Dieu, puisque l'on a en figure centrale Dieu le Père à travers son Fils, donc le Salvator Mundi, donc le Christ Sauveur du monde. Donc ce sont des sculptures d'une extrême finesse, d'une très belle qualité d'exécution et qui ont été réalisées par un artiste qui aujourd'hui, dont l'identité aujourd'hui n'est pas clairement définie. On parle beaucoup d'Antoine le Moiturier, qui a œuvré à la cour des ducs de Bourgogne dans la deuxième moitié du XVe siècle, mais rien n'est moins sûr. Dans tous les cas, c'était un atelier de belles factures et de belles renommées également. Alors, ces anges choristes entrent en résonance avec les anges musiciens du Triforium, que le visiteur ne peut pas voir d'une manière, on va dire, aisée, puisque ceux-ci sont en hauteur, c'est-à-dire qu'en fait, ils décorent les écoinçons du Triforium, cette galerie de circulation haute. Ils sont au nombre de 8 plus 1, le dernier étant l'incarnation de Saint Matthieu, Matthieu l'évangéliste, donc qui est représenté, on va dire, à travers la figure d'un ange musicien jouant de la guiterne, l'un des instruments aussi phares de l'exposition qui accueille le visiteur, dans celle-ci. Ensuite, les 8 autres anges musiciens donc jouent des instruments qui étaient très en vogue au XVe siècle, enfin 14e et 15e siècle, puisque là, ce sont des figures plutôt de la deuxième moitié du 14e, début du 15e. Et donc, ils jouent à la fois de la vielle à archer, à la fois de l'organetto, cet orgue portatif, qui a été utilisé aussi lors des processions. Ils jouent également de la cornemuse ou encore du tambourin et du psaltérion. Donc, tous ces instruments, nous les retrouvons dans l'exposition Ars Musica, mais par le biais de restitutions, puisqu'il faut bien le savoir, il n'existe plus d'instruments de la période médiévale qui nous soient parvenus, à l'exception de quelques très rares olifants, c'est-à-dire le cor. Tout le monde a entendu parler du célèbre cor de Roland à Roncevaux. Donc ces olifants qui étaient aussi utilisés pour la musique et aussi pour la liturgie, dirais-je. Donc, on retrouve encore dans les collections publiques et également dans certains trésors ces merveilles, puisque ce sont vraiment des instruments merveilleux, ouvragés, finement ciselés, voilà, comme nous pouvons d'ailleurs le voir dans l'exposition, puisque un exemplaire est présenté. Donc, plus du tout d'instruments de musique, quelques pièces archéologiques, mais à l'état, on va dire, de fragments. Et donc, nous bénéficions d'un très beau partenariat avec le Centre international de musique médiévale de Montpellier, lequel a mis à notre disposition une série de 9 instruments restitués par des archéoluthiers qui sont eux-mêmes musiciens, ils connaissent parfaitement la musique. Et donc, ce sont ces instruments inspirés d'une iconographie choisie médiévale, que ce soit à travers les manuscrits enluminés, à travers les sculptures, à travers les peintures également, ou les objets d'art donc, qui sont mis comme ça à la disposition du public qui pourra les admirer avec les yeux, bien évidemment ne pas les toucher car ils demeurent extrêmement fragiles. Il faut savoir que ces instruments sont joués dans le cadre de résidences artistiques ou encore lors de concerts. Alors l'exposition en fait commence par déjà une explication qui se veut, on va dire, la plus limpide possible, du moins je l'espère, sur la place de la musique au Moyen-Âge. Il faut savoir que le Moyen-Âge est une période extrêmement sonore, extrêmement bruyante. Il y a du bruit partout et en toutes circonstances, Alors, c'est déjà le bruit des cloches, bien évidemment, qui rythme la vie des citoyens, qu'ils vivent eh bien, en milieu urbain, qu'ils soient à la campagne. Ce sont les cloches aussi qui appellent à l'office, qui appellent les communautés monastiques, mais aussi les fidèles. Ce sont les cloches aussi qui résonnent lorsqu'un danger s'approche de la cité et menace ses habitants. Lorsque, bien évidemment, une épidémie de peste touche les cités ou les campagnes, donc la cloche est omniprésente. Le son est omniprésent, ce sont à la fois les cris eh bien, des crieurs de rue qui ont des annonces ou des marchands, le fracas des armes lors des batailles, donc ça c'est important et il faut s'en souvenir. De fait, la musique a une place primordiale. Alors tout d'abord parce que la musique, on le dit encore aujourd'hui, est censée adoucir les mœurs. Au Moyen-Âge, il faut savoir que la musique était considérée aussi par les médecins comme un remède pour soigner notamment les troubles mentaux. C'est ainsi que dans le livre des propriétés des choses, qui est un célèbre manuscrit, eh bien, Barthélemy Langlais explique qu'il faut faire sonner les instruments, il faut également chanter pour apaiser la tristesse et réjouir les âmes et donc les corps. Donc c'est dire l'importance aussi de la musique à des fins, on va dire, plutôt thérapeutiques. La musique n'est pas considérée comme un art comme les autres, comme les beaux-arts par exemple, la sculpture, la peinture, l'enluminure ou autre. C'est une science à part entière. Il faut savoir qu'elle fait partie de l'un des 7 arts libéraux. Alors, quels sont ces arts libéraux? Eh bien, saint Augustin les définit ainsi. Il y a à la fois ceux qui relèvent de la science du langage, la rhétorique, la dialectique, la grammaire en premier lieu, et puis les 4 qui relèvent, le quadrivium, qui relèvent, eux, de la science du nombre, l'arithmétique, la géométrie, mais aussi l'astronomie, et enfin la musique. Donc, c'est une science, et elle est théorisée. Elle est théorisée, 3 branches d'ailleurs, pour qualifier cette musique, qui nous sont expliquées par Boès, qui est l'un des auteurs de l'Antiquité tardive, et lequel donc va, on va dire, catégoriser cette musique donc en 3 séquences. La première, c'est la musique des sphères, la musique du monde, celle qui génère l'harmonie du monde, d'où le sous-titre de l'exposition « Ars Musica, l'harmonie du monde ». C'est celle, bien évidemment, qui touche au divin. C'est celle des anges, c'est celle aussi des chantres, c'est celle de la liturgie. La deuxième musique, c'est la musica humana, c'est-à-dire celle de l'homme, celle qui résonne au plus profond de notre être et qui fait que tout doit être en ordre de marche, les organes, les humeurs, etc., selon Hippocrate, pour que l'on soit en bonne santé. Enfin, la dernière, c'est la musica instrumentalis, c'est celle qui concerne la voix, puisque la voix est le premier instrument de musique, et les instruments, bien évidemment, par définition. Donc, une fois, on va dire, ces considérations mises en lumière, eh bien, il faut aussi savoir que la notation musicale n'apparaît qu'au IXe siècle. Donc, c'est quand même assez tardif par rapport à la pratique de la musique elle-même, de la musique, on va dire, instrumentale ou de la musique vocale à travers le chant. Donc Isidore de Séville, d'ailleurs, au 7e siècle, pouvait s'émouvoir de voir en quelque sorte que la musique ne pouvait pas être retenue, c'est-à-dire ne pouvait pas être écrite, couchée sur le parchemin. Donc tout était perdu, ne restait que la transmission orale. C'est la raison pour laquelle, au IXe siècle, eh bien, commence véritablement la notation musicale à travers une notation dite neumatique. Ce sont des neumes, et les neumes, ce sont en quelque sorte des ponctuations, des accents. Alors ça semble aujourd'hui, pour nous, assez sibyllin, voire cabalistique, mais pour les chantres de l'époque, cela leur permettait de placer leur voix et de trouver le juste ton. Alors, cette notation musicale va évoluer, fort heureusement, grâce notamment à un moine, un bénédictin toscan, Guido d'Arezzo, lequel Guido va en quelque sorte eh bien, vouloir transmettre cet enseignement d'une manière plus facile, plus fluide, à travers donc ce qui aujourd'hui s'apparente à une partition musicale. Donc, ce sont ces notes qui prennent une forme carrée sur une portée de 4 lignes rouges, et c'est ce que l'on va retrouver dans tous les manuscrits notés, en tout cas dans la grande majorité de ceux-ci. Et ces notes, en quelque sorte, devront être nommées pour faciliter l'apprentissage. Donc il va avoir l'idée on va dire ingénieuse, eh bien de s'inspirer d'un poème que l'on doit à Paul Diacre, qui était un poète du 8e siècle, donc qui a précédé donc Guido d'Arezzo, un poème qui était en fait un hymne à Saint Jean-Baptiste. Et il va retenir de ce poème en latin les premières syllabes. C'est ainsi que l'on va retrouver le ut qui deviendra au XVIIe siècle le do, puis ensuite donc le ré, le mi, le fa, le sol, le la et le si. Le si pour Sancte Ioannis, donc le s de Sancte et le i de Ioannis ou Johannes, donc Jean. Donc voilà un peu l'explication et comment est né en quelque sorte ce qui aujourd'hui fait souffrir de très nombreux apprentis musiciens, à savoir le solfège, donc que l'on doit, on va dire, à Guido d'Arezzo au XIe siècle. Alors cette exposition permet aussi de découvrir ces manuscrits notés qui se développent principalement, mais pas uniquement dans la sphère plutôt, on va dire, religieuse, donc pour accompagner le chant, la liturgie. Ce sont à la fois des graduels, des collectaires ou encore des antiphonaires. Et l'on a présent dans l'exposition un très bel exemplaire prêté par la Bibliothèque municipale de Lyon qui fourmille de détails dans ses marges avec des anges musiciens, avec des oiseaux, des rinceaux. Enfin, tout ça est extrêmement merveilleux pour dire que la musique aussi est relayée par le chant des oiseaux. L'objectif de l'exposition, c'est de montrer, on va dire, les représentations plurielles de la musique à travers l'art. Ce n'est pas une exposition sur l'histoire de la musique au Moyen-Âge, c'est vraiment une exposition sur les représentations de la musique dans l'art. Donc, nécessairement, il était important de représenter tous les domaines de l'art, à l'exception peut-être du domaine textile, mais dans tous les cas, nous rencontrons en effet des peintures, et non des moindres, des sculptures, mais aussi des vitraux, par exemple, et bien évidemment des manuscrits ou des objets d'art. Un feuillet de diptyque très délicatement aussi ouvragé, avec des anges musiciens qui offrent le panel, on va dire, instrumental que l'on retrouve dans toute l'iconographie médiévale. Et en ce qui concerne les anges, d'une manière beaucoup plus appuyée à partir du XIIIe, XIVe siècle. Voilà. Donc, il y a en effet des œuvres tout à fait spectaculaires. Je peux en citer quelques-unes, notamment cette fête champêtre, mais au demeurant extrêmement luxueuse, à la cour du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Alors, il s'agit ici d'une copie du XVIe siècle, d'un original perdu, que l'on doit vraisemblablement au célèbre peintre flamand Jan van Eyck. Et lequel artiste, s'il s'agit de Jan ou d'un autre, eh bien, va illustrer, on va dire, les heures de gloire du duché de Bourgogne et notamment de la cour de Philippe le Bon. En matérialisant sur la peinture, eh bien, à la fois le mariage du duc avec Isabelle de Portugal, ou encore ses victoires, notamment lors de la bataille de Cassel en janvier 1431. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que la musique, la danse et le chant font corps et âme, pas seulement avec la liturgie, car la danse accompagnait aussi la liturgie, on l'oublie aujourd'hui, mais c'était le cas au Moyen-Âge, mais aussi bien évidemment accompagne toutes les fêtes princières, seigneuriales, des grandes cours européennes de l'époque, y compris les fêtes populaires d'ailleurs. C'est vrai que c'est relativement complexe, parce qu'on parle effectivement de la place de l'homme dans l'univers, de la place qu'il occupe, etc. Ça se rapproche des mathématiques, oui, et c'est la raison pour laquelle la musique fait partie de la science du nombre, car tout cela est extrêmement aussi technique. Tout est, on va dire, ordonné selon le nombre, selon une règle, et c'est ce que rappellent aussi les quatre premiers tons du plein chant, c'est-à-dire du chant grégorien, avec le deuxième ton qui explique que ce ton est celui du nombre et celui de la règle, de la loi. Donc on voit bien que tout est théorisé. Donc en effet, avec les modulations, tout se rapproche finalement des mathématiques ou encore d'autres sciences en lien. Et la philosophie, oui, bien évidemment, puisque je parlais de la place de l'homme dans l'univers. Et en effet, quand on parle de la musique des sphères, de l'harmonie du monde et de cette musique qui touche au plus près du divin et qui permet d'être en quelque sorte ce médium entre les hommes et le divin et l'au-delà. Donc oui, effectivement, la dimension philosophique est présente. Il était aussi intéressant d'avoir une petite parenthèse enchantée et parfumée à la fois, que j'ai demandé à Annick Le Guerrer, qui est l'une des grandes spécialistes des parfums et de l'odorat, qui a par ailleurs assuré le commissariat scientifique du nouveau parcours Parfums d'Histoire, du soin au bien-être. Eh bien, cette parenthèse, en fait, met en lien les parfums, le parfum, l'univers du parfum avec la musique, puisque l'un et l'autre ont un vocabulaire commun. On parle d'orgue à parfum, on parle d'orgue, d'orgue portatif, de positif, d'organetto, pour la musique. On parle également de gamme, on parle de notes olfactives, comme des notes de musique, voilà, de partition. Donc on est dans cette écriture aussi et ce vocabulaire commun.